et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! L'idée première que l'on se fait du couple est normalement deux personnes qui vivent leur quotidien ensemble. Or, il arrive souvent dans ma réalité, tout comme dans celle de mon invité d'aujourd'hui, qu'il n'en soit pas ainsi. En effet, de mon côté, je partage ma vie et mon lit avec un homme qui voyage souvent et je me retrouve souvent seule pour garder le fort et nos quatre enfants, pendant que monsieur vit parallèlement des expériences professionnelles. Du côté de mon invité, Stéphanie Villeneuve, travailleuse sociale, il en est aussi ainsi, mais dans une autre perspective, celle de conjointe de militaire. Ainsi, étant donné son travail jumelé à ses expériences de vie, elle a tôt fait de connaître parfaitement ce qu'on appelle le cycle émotionnel de l'absence. Comprendre un processus, un cycle, c'est de mieux le vivre. Ainsi, nous faisons dans cet épisode le tour de cette question fort intéressante. Bonne écoute! Stéphanie, comment ça va?
Salut Dominique, ça va super bien, toi?
Ça va vraiment bien, merci. J'ai super hâte qu'on saute dans le vif du sujet aujourd'hui. Puis je pense que les gens vont trouver ça super intéressant. Mais d'abord, j'aimerais ça qu'on parle de toi. Toi qui es, ce qu'on peut dire expatrié pas très loin du Québec, mais expatrié quand même. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, premièrement, ce qui t'a amené à vivre à l'extérieur du Québec et ce qui fait qu'on a une conversation ensemble aujourd'hui.
Commençons par le début.
Oui,
moi, je suis conjointe de militaire depuis les 10 dernières années. Puis, tu sais, je suis originaire de la ville de Québec. Mon conjoint, lui, vient de Rimouski, dans le Bas-du-Fleuve. Puis, on a passé les 10 dernières années à la base militaire de Valcartier. Fait qu'on n'a pas, eu à être muté, ce qu'on appelle à vivre de posting. On a vécu bien, bien des absences en lien avec la réalité militaire, mais pas de mutation. Jusqu'à, le juillet dernier, fin juin, on a été muté ici à Kingston, en Ontario. Donc, comme tu le dis, c'est pas très, très loin. Tu sais, c'est 5h30 de Québec, à peu près 8h30 de Rimouski pour mon conjoint. Mais on est quand même dans un environnement qui est dans une autre langue. C'est une ville qui est quand même... Il y a un petit peu de gens qui parlent français, mais très peu. Donc, on est vraiment rendu dans un milieu anglophone.
Super. Puis là, d'abord, ce qui a amené le sujet entre nous deux, c'est le fait que, justement, tu accompagnes des conjointes de militaires dans leur, ce qu'on appelle « posting », entre guillemets, dans votre langage. Donc, oui. Des femmes qui ou des familles qui vont changer d'environnement pour suivre leur conjoint qui est militaire. C'est bien ça?
Exactement. Mais en fait, je suis de formation, je suis éducatrice spécialisée et travailleuse sociale. Puis, dans les dernières années, j'ai décidé de spécialiser mon intervention vraiment en lien avec les familles de militaires. Puis là, notre posting, notre mutation ici à Kingston a fait en sorte que j'ai décidé de développer vraiment le côté, en fait, ma pratique privée. Puis vraiment centrée sur l'intervention auprès des familles de militaires francophones parce que j'ai réalisé que une fois que les gens sont postés hors province de Québec, mais l'accès aux services de langue française est souvent difficile, ce qui représente un facteur de risque, en fait, pour ces familles-là. Fait que c'est vraiment mon champ d'action présentement, là, d'accompagner ces familles-là en leur offrant des services spécialisés, puis surtout de langue française.
Excellent. Donc là, on avait cette discussion-là par rapport à tout ça. C'était super intéressant. On jasait ensemble il y a à peu près 2 semaines. Et est venu le sujet du jour aujourd'hui qu'on aborde. Et c'est celui du cycle émotionnel lié à l'absence. Puis là, je m'explique. On était dans une discussion liée au fait que, en tant que conjointe expatriée, de militaire ou pas de militaire, là, il y a un phénomène qui est lié au fait que la famille, le couple est régulièrement séparé, vit l'absence du conjoint. Puis, en t'en parlant, j'ai réalisé que c'était plus que juste mon vécu, là, puis une situation c'est que plusieurs femmes vivent là, comme ça, tout bonnement. C'est plus profond que ça. Il y a des explications, il y a des choses à comprendre de ce cycle-là. Puis ça donne que tu es la spécialiste sur le sujet. Alors, je suis super emballée qu'on commence à en parler. Puis là, on s'est dit, on va garder ça pour le contenu d'un enregistrement podcast pour que les gens puissent bénéficier de cette conversation-là qui, je pense, va vraiment aider à comprendre certaines choses. Puis souvent, quand on comprend, bien, on est mieux avec nos situations puis ce qu'on vit.
Absolument. Puis tu sais, je te dirais que pour moi, là, ce concept-là, ça a été un life changer pour vrai. Quand, autant au niveau personnel que dans ma pratique, quand je l'ai découvert. Puis à chaque fois que j'en parle en intervention, pour les clientes que j'accompagne, c'est aussi un life changer. Fait que c'est quelque chose qui est quand même très, très puissant, je dirais.
Mais écoute, juste là, au moment où on fait l'enregistrement, comme je te le disais juste avant, mon conjoint, il n'est pas là. Il est parti avant-hier, il va revenir demain. C'est pas des super longues absences. Puis moi, je rendais ça, là, le fait que c'était pas des longues absences, comme quelque chose qui était moins important. Mm-hmm. Et en discutant avec toi, tu as mis le doigt sur quelque chose, c'était que c'est pas que c'était moins important, mais peut-être même plus condensé en termes de cycle d'émotions.
Exactement. Tu sais, dans le fond, là, si je fais juste un bref retour en arrière pour situer ça vient d'où, ça, là, ce cycle émotionnel-là.
Oui.
Ça a été développé vraiment, parce qu'on ne lui donne pas souvent le crédit, fait que je veux lui donner, mais oui. Ça a été développé par une Américaine qui s'appelle Kathleen Vestal Logan en 87. Fait que c'est aussi vieux que moi, bref. Ça a été développé à la base vraiment en lien avec les familles de militaires, là. Initialement, c'était vraiment pour les gens qui sont dans la Navy. Fait que ce modèle-là a été développé. Puis, initialement, on l'utilisait pour parler des absences qui étaient de 3 mois ou plus. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'on a compris au fil du temps que ça s'applique autant sur les longues absences que sur des plus courtes absences, exactement comme ce que tu es en train de dire. Ce qu'on voit, c'est que la différence, c'est que... quand c'est des plus courtes absences, mais tout ce qui vient, en fait, les différentes étapes du cycle se font en accéléré, ce qui fait en sorte que on a plus de difficultés à retomber sur nos pattes parce que ben on a moins de temps, tout se fait rapidement. Puis souvent, les gens qui vivent des absences de plus courte durée, ben c'est des absences qui sont répétées. Fait qu'on a envie, tu sais, on est comme toujours dans des boucles. Ce qui fait en sorte que c'est aussi important pour les courtes absences que pour les plus longues.
Mais oui, puis personnellement, j'avais tendance à minimiser le sentiment autour de ça. Tu sais, c'est pas, on parle pas de, dans mon cas, du moins, là, c'est pas un drame, là. C'est juste que, tu sais, je me disais, ben là, écoute, c'est pas long, là. Puis quand les gens me questionnaient aussi, c'est une autre chose, tu sais, tu dois trouver ça dur que ton chum parte souvent, mm-hmm. ça. Puis ma réponse, c'était, je voyais toujours le verre à moitié plein, je voyais les bons côtés, tu sais, je disais toujours, puis c'est vrai, là, je le pense, tu sais, je disais toujours, ben non, c'est pas si long que ça, je suis contente pour lui, c'est des belles expériences de travail, ça l'aide à développer sa carrière, il est pas pris, entre guillemets, avec nous quand il travaille à l'extérieur. Quand il revient pour le couple, pour la famille, c'est super le fun, c'est excitant, on est content de se retrouver. Fait que, tu sais, je voyais pas ça du côté négatif comme tel, mais à force d'être questionnée, je me rendais compte qu'il y avait d'autres choses quand même en tout ça. C'est juste que je décidais de pas mettre le spotlight dessus, mais il y a quand même un sentiment de se retrouver seul, un sentiment de... Il faut que tu fasses confiance à ton conjoint aussi, il veut pas.
Oui,
il y a aussi un sentiment... Il y a surtout même un sentiment, tu sais, c'est celui dont on parle pas souvent, mais qui est réel, puis qui est... Quand le conjoint revient, il déstabilise toute la patente, là. Tu sais, on dirait qu'il dérange aussi. Puis là, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que, en tout cas, personnellement, je finis par me réajuster rapidement à chaque fois. Mais il y a quand même cette petite affaire-là qui existe, là. T'sais. Fait que, si tu reviens, Stéphanie, moi, je vais te laisser, en fait, passer à travers ces cycles-là pour qu'on comprenne ce qu'il y en est plus précisément.
Oui, ça me fait plaisir. Fait que... Oui, en fait, là, il y a 7 étapes dans le cycle émotionnel de l'absence qui ont chacune des particularités qui leur sont propres. Si on parle de la première étape, c'est vraiment l'étape de l'anticipation du départ. Là, je ne vous donnerai pas de durée de temps parce que, justement, selon si c'est une absence plus longue ou une absence plus courte, la durée dans le temps varie. Ce qui est important de savoir, c'est que généralement, on passe par ces sept étapes-là. Donc, tu sais, je ne vous donnerai pas de durée de temps, mais à terme d'exemple, si on veut, là, sur une absence qui est plus long terme, là, de 6 mois, la première étape qui est l'anticipation du départ, on parle généralement des 4 à 6 semaines qui précèdent le départ. Fait que pour une absence plus courte, comme dans ton cas où c'est des quelques jours, voire une semaine, bien, l'anticipation du départ, ça peut être 2 jours avant environ. Ça pourrait être à peu près ça.
Oui, puis tu sais, c'est le moment. Dans le fond, je vais t'interrompre au fur et à mesure pour peut-être juste placer un peu, imager un peu ça. Mais tu sais, c'est sans doute le moment où, dans mon cas, avec mes 4 enfants, mon travail, tout ça, bien, je vais commencer à me dire, c'est bon, là, qu'est-ce qu'on va manger? Comment je vais faire pour m'organiser avec la garderie, les activités extrascolaires? Et si, tu sais, je commence à être en mode organisation de, il va falloir que je fasse tout, là.
Oui, puis tu sais, souvent, c'est à cette étape-là que les conjoints vont commencer à prendre une certaine distance émotionnelle par rapport à l'autre, simplement par mécanisme de protection, pour se préparer et se protéger en lien avec ce qui s'en vient.
Oui.
Donc, tu sais, ce qui est important de mentionner, puis on l'a pas dit d'entrée de jeu, mais ce cycle-là, tout le monde dans une famille le vit. Fait qu'autant la conjointe que les enfants, que le conjoint qui a à s'absenter aussi. Donc, c'est là où il y a souvent un clash, dans le sens que la conjointe, elle, la personne qui reste à la maison, parce que ça peut être le conjoint aussi, mais la personne qui reste à la maison va être justement, comme tu le dis, là, dans l'étape de préparation de tout ça, là, comment je vais organiser la routine, puis là, c'est tous les aspects plus techniques, alors que la personne qui va partir, elle est plus dans sa préparation. Fait que c'est comme si elle était encore à la maison, mais physiquement, mais sa tête est en train de s'en aller.
Oui.
Où elle s'en va. Fait qu'on est comme dans 2 mondes parallèles en étant sous le même toit.
Fait absolument. Ça, j'ai des frissons. Parce que là, on dirait que je revois toute notre situation qu'on vit tout le temps, mais oui, d'une façon expliquée. C'est vraiment bizarre. Mais continue. Oui.
C'est souvent à cette étape-là où, tu sais, au niveau de notre énergie, puis notre humeur, on va se sentir un petit peu instable parce que, justement, tu sais, on combat un petit peu ce qui s'en vient. Un petit peu plus d'anxiété, les tensions qu'on demande, les petites frustrations dans le couple occasionnées parce que je viens de mentionner, justement, on n'est pas dans la même réalité. Tu sais, pour certains, ça peut être plus de la tristesse. Il y en a pour qui c'est de la colère, qui sont fâchés à l'endroit de l'autre. Certains vont ressentir même de la jalousie. Tu sais, c'est toujours lui qui s'en va, puis moi, je reste toujours ici à attendre. Ce type de discours-là, c'est propre à cette étape-là. Ensuite de ça, on rencontre la période du détachement et ce qu'on appelle détachement et retrait ou détachement et isolement. C'est l'étape où, on sait qu'il s'en va. Fait que pour me protéger, justement, puis tu sais, les enfants, c'est la même chose. Il y a des enfants qui vont ne plus rien vouloir savoir de l'autre parent.
Mm-hmm.
Il y a des conjoints qui, tu sais, si on parle juste de la sexualité, par exemple, ou de l'intimité, il y a des gens qui vont se mettre des barrières par rapport à ça. Puis c'est toujours dans des mécanismes de protection qui s'installent, en fait. Donc, ça peut être difficile parce que ce qui arrive, c'est que souvent, avant le départ, on a tous des besoins qui sont différents. Pour certains, ça va être de passer vraiment tout notre temps ensemble, en famille, dans le petit cocon. Pour d'autres, ça va être, exemple, pour la personne qui s'en va, ça peut être de passer tout son temps en famille, tout comme si c'est quelqu'un qui s'en va pour une période plus longue, mais il peut vouloir en profiter pour voir ses amis, puis la famille élargie, tout ça, alors que la conjointe ou les enfants voudraient, tu sais, préserver le petit cocon. Fait que ça peut créer des espèces de tensions à cette étape-là aussi.
Ça, c'est le moment du départ, là, juste avant, là.
Oui, juste avant.
Donc ça me ramène là, à une fois où on allait vraiment là, déménager au Texas et Martin allait partir pour plusieurs semaines à ce moment-là. T'sais, la famille allait réellement être séparée pour un bout de temps pour qu'ils viennent ici là, organiser les choses, tandis que nous, moi et les enfants, on restait au Québec. Puis on avait décidé justement, puis je pense que c'est ça un peu le bris de l'intimité, là, on avait décidé de conclure, entre guillemets, ça au restaurant. T'sais, avant qu'ils partent à l'aéroport, on s'était rendu au restaurant pour lui dire bye-bye, mais c'était comme un peu plus froid. On dirait que ça évitait un drame, tu comprends?
Mm-hmm. Oui, se retrouver dans un endroit neutre, puis
ouais,
personnalisé, tout ça, là. Puis tu sais, ça, là, souvent, c'est une question qui revient en intervention. Les gens me demandent, mais Stéphanie, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Il n'y en a pas de meilleure façon. Mm-hmm. Faut juste être... Tu sais, chaque famille a des besoins qui sont différents, puis ces besoins-là, ils évoluent aussi au fil du temps. Fait que c'est pas parce qu'une fois... Ce qui a été préférable pour nous, c'était de faire de telle façon que ça va toujours être de cette façon-là. Fait que d'être à l'écoute des besoins de chacun, c'est ce qui va nous dicter, tu sais, de se fier à notre feeling, notre intuition, qu'est-ce qu'on a besoin. Ça va être super important aussi.
Oui, parce que tu vois, généralement, là, dans les autres séparations que nous, on a ou on fait, maintenant, là, on le fait vraiment à travers la routine. T'sais, pendant que les enfants sont en train de faire d'autres choses dans la maison, puis éventuellement, à travers ça, à un moment donné, il dit bye-bye à tout le monde, puis il s'en va, mais tout le monde continue ses activités. Puis on dirait qu'on rend ça moins intense.
C'est moins dramatique aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Mais d'abord, c'est toujours ça, que ce soit au restaurant ou à la maison, c'est toujours un peu ça qu'on recherche là, quand on se sépare. Ouais. C'est toujours que ce soit le plus, tu sais, que ça coule. Que ouais. Ce soit pas là, intense et dramatique et tout ça.
Ouais, puis si on réussit pas, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, puis on n'a pas à se taper sur la tête. T'sais, on fait tout du mieux qu'on peut en fonction du contexte, en fonction des ressources qu'on a au moment où on rencontre cette étape-là.
Ouais, ouais, ouais.
Ça ajuste. Puis c'est là où le fait de connaître ce cycle-là, puis de comprendre les différentes étapes émotionnelles que ça va amener, mais ça nous permet de venir normaliser tout ça, puis de rendre ça plus facile, puis même plus prévisible aussi. Tu sais, à un moment donné, on le sait, on est quel genre de personne, puis on le sait comment on a tendance à réagir à cette étape-là, puis on peut mettre des choses en place en fonction de notre façon de réagir ou de la façon que nos enfants ont de réagir. Fait que c'est là où ça devient vraiment intéressant.
Oui, puis c'est ça que j'aime, du fait qu'on comprenne ça aujourd'hui, parce qu'on lâche le pilote automatique, on explique des affaires, puis je trouve que ça aide tellement, justement, à mieux s'organiser autour de ça, puis à mieux vivre là, chacune des étapes et des émotions.
Oui, puis moi, ce que je trouve, c'est que, tu sais, souvent, là, dans la vie, on est soit juste dans notre tête ou soit juste dans nos émotions. Ouais. On est pris comme dans un endroit ou dans l'autre, puis je trouve que le cycle émotionnel de l'absence, il permet comme de créer une autoroute entre le cœur puis la tête. C'est de venir faire un pont entre le rationnel et l'émotif que je vis dans ces situations-là pour faire en sorte que ça soit plus facile.
Bien, c'est comme si on s'entendait sur le rationnel, fait qu'on peut le laisser un petit peu. Tu sais, il est là, là, on le voit, on le comprend. Fait que là, maintenant, on peut vivre nos émotions, tu sais, au lieu de, comme tu dis, d'être tiraillé entre les deux.
Ouais, exactement.
Absolument.
Fait que ça nous amène à la prochaine étape, qui est l'étape de déstabilisation ou désorganisation émotionnelle. Ça, c'est la montagne russe d'émotions, comme j'aime bien l'appeler. C'est le moment où notre routine est chamboulée, qu'on a perdu nos repères. C'est là où on est peut-être plus susceptible d'avoir des troubles du sommeil ou plus de difficultés à dormir, même chose pour les enfants, plus de difficultés au niveau de l'appétit, soit qu'on mange plus parce qu'on mange nos émotions, soit on n'a pas d'appétit, on se sent plus irritable, plus désorganisé, on ne sait plus trop ce qu'on veut. C'est pas rare que je vois des périodes de remise en question dans ces moments-là aussi. La conjointe qui dit « Ben voyons, suis-tu vraiment faite pour vivre cette réalité-là? Là? Suis-tu vraiment ça que je veux à long terme? » Ou à l'inverse, celui qui est parti et qui retrouve une certaine liberté en étant ailleurs peut avoir ce même genre de réflexion-là aussi. Puis ça, ben, quand c'est abordé dans le couple, parfois ça peut avoir l'effet d'une bombe parce qu'on se dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe là? » Pourquoi on vient remettre en question la relation? Fait que ça peut arriver, ça n'arrive pas tout coup, là, mais il y a des gens pour qui ça peut arriver. Souvent, c'est l'étape aussi où on se sent un peu dépassé par les responsabilités supplémentaires qui vont nous incomber en l'absence de l'autre.
Oui.
Fait que, c'est là où ça bouge. T'sais. Pour les enfants, ils ne se comprennent plus. Ils vivent une intensité émotionnelle et ne sont pas nécessairement capables de mettre des mots là-dessus ou de comprendre rationnellement ce qui se passe. Fait qu'on est comme tous des petits volcans en éruption dans une même maison.
Oui, puis je veux dire, il y en a beaucoup là, de ces émotions-là. Je suis bien d'accord, en fait, pour dire que c'est exactement ça. Du côté de la personne qui reste à la maison, tu sais, par exemple, nous, là, on a 4 enfants. Bien, c'est sûr que l'ampleur de la tâche, tu sais, monte d'une coche pendant que moi, je vois que lui. Mais tu sais, je raconte tout ça, puis en même temps, on se comprend bien. Là, je suis super heureuse pour lui, puis ça s'en va pas. Là.
Non,
je suis vraiment contente qu'il le fasse pour lui, puis pour nous aussi, puis je vois beaucoup de bon à travers ça. Mais veut pas, tu sais, il y a une des deux personnes sur qui incombe tout le reste des responsabilités, tandis que l'autre, tout à coup, jouit d'une liberté supplémentaire qu'il n'y a pas habituellement. Je parle au niveau vraiment des responsabilités familiales. Là. Il y a d'autres responsabilités.
Tout à fait. Souvent, ce qui arrive à cette étape-là aussi, puis on s'en parlait dans notre discussion précédemment, mais tu sais, la personne qui part va vivre aussi cette déstabilisation-là émotionnelle parce qu'elle aussi, nécessairement, va s'éloigner de gens qu'elle aime, va sortir de sa routine, va faire face à des situations imprévues aussi, tu sais. Si je parle, admettons, dans ma réalité plus à moi, mais un militaire qui arrive en contexte opérationnel, Bien, ça se peut qu'il arrive puis qu'il n'y ait pas d'endroit où coucher parce que les tentes n'ont pas été montées puis que l'organisation c'est broche à foin puis que ça génère différentes émotions aussi. Qu'ils disent, Colin, que j'aurais aimé mieux être, rester à la maison et
dans
tout ça.
Dans un confort. Là.
Exactement. Dans le cas de ton conjoint, que c'est plus des voyages à faire, mais ça peut être des difficultés au niveau de l'aéroport. Ça peut être d'arriver à l'hôtel puis que la réservation de chambre n'a pas bien été faite finalement. Ça peut être que l'hôtel est en rénovation puis je ne réussis pas à bien dormir. Ça peut être toutes sortes de choses, mais chacun le vit d'une façon différente, ce qui complique parfois les communications à cette étape-là aussi.
Absolument. Puis en plus, je dirais que la charge émotionnelle qui a précédé le départ fait en sorte que le focus sur le travail ou la mission, peu importe ce que c'est, est un peu décalé. Donc là, il retombe tout de suite en mode « il faut que, tu sais, il faut que je travaille, il faut que je me concentre, il faut que… » Tu sais, lui, là, il n'est pas non plus déchargé de ça, là, sa responsabilité. C'est juste que ça en est une autre, tu sais, mais il est allé faire quelque chose. Il n'est pas parti sur la plage, là.
Non, puis ils n'ont pas le choix de mettre le focus sur la tâche assez rapidement, ce qui fait en sorte que il y a souvent une espèce de coupure émotionnelle, particulièrement dans le contexte militaire, là, mais ils n'ont pas le choix de se couper de l'émotif parce que si les émotions prennent trop de place, ben ils se mettent en danger, puis ils mettent en danger les gens avec qui ils travaillent.
Absolument.
Il y a comme quelque chose qui s'installe là. Par ailleurs, ce qui arrive aussi souvent, tu sais, quand je dis que ça amène des enjeux au niveau des communications, c'est que souvent la personne qui se retrouve à l'autre bout, la personne qui a quitté, va se sentir vraiment impuissant par rapport à ce qui se passe à la maison pendant cette période de déstabilisation émotionnelle-là. Puis, ça va venir ébranler un petit peu son sentiment de compétence parce que je voudrais bien être utile, je voudrais bien aider à trouver des pistes de solutions, mais je ne suis pas en mesure de le faire parce que je suis à distance.
Oui.
Et c'est là où, souvent, c'est là où ça va amener des enjeux de communication parce que là, on va se parler. Là, la personne qui se sent impuissant, on va finir peut-être par pogner les nerfs en disant « Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais, je peux pas rien faire. » Puis là, les discussions vont se terminer en queue de poisson. On va avoir tendance soit à espacer les communications parce que c'est pas nécessairement positif. T'sais, bref, on rentre dans un cercle vicieux, là.
Oui, puis dans la désorganisation, justement, c'est que on n'est pas encore stable. T'sais, donc, lui, il vient de partir, mais il a laissé des affaires derrière lui. Tu sais, mettons, il a pas moi, j'ai pas encore pris le contrôle à 100% de la situation. Non,
non plus. Pas du tout.
Donc, tu sais, mettons, il est parti, mais là, il a pas sorti les poubelles. Je sais pas où est-ce qu'il a laissé la ville. Je sais pas. Je veux dire, il y a comme des questions là, qui sont pas réglées dans le quotidien, là, dans le train-train. Fait que là, je compte là aujourd'hui avec les téléphones cellulaires. T'sais. Fait que là, je continue à courir un peu. Puis, ça, c'est pas fait, ça, c'est où, tata. Puis, tu sais, lui, il est comme pas encore laissé, tu sais, il a pas encore acquis sa liberté d'aller faire ce qu'il a à faire. Tu sais, ça prend un petit temps. Des fois, ça prend 3 minutes, tu sais, des fois, je le texte, il vient de partir. Puis l'autre fois, tu sais, il vient d'arriver à l'hôtel, là, puis, sauf que, tu sais, il y a quand même un moment, là, que c'est ça, mettons, je dirais entre 2 minutes et 24 heures, là, où, tu sais, j'ai pas pris plein contrôle encore.
Ouais. Puis, tu sais, ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, encore là, sans dire de chiffres précis ou quoi que ce soit, c'est souvent la période de déstabilisation émotionnelle, encore là, dans le cadre d'un déploiement d'à peu près 6 mois, c'est souvent les 6 premières semaines. Fait que si on ramène ça, fait que c'est à peu près 6 semaines fois, bon, 6 mois fois 4 semaines, ça fait 24 semaines, fait que 6 semaines sur 24 qu'on est en déstabilisation émotionnelle. Fait que si on ramène ça sur le ratio de toi, ce que tu vis sur une semaine, ben ça revient quand même un prorata qui peut être semblable.
Mais c'est incroyable. En tout cas, encore une fois, petite virée de frisson à travers mon corps. On continue.
Donc, après ça, vient l'étape qu'on apprécie pas mal tous le plus, qui est l'étape de reprise, stabilisation. Donc, c'est là où je vais sentir que, bon, ma nouvelle routine est établie, j'ai mon art d'aller, je me suis habituée au nouveau rôle et responsabilités qui m'incombent. Ça veut pas dire, soit dit en passant, que je m'ennuie pas, mais j'ai retrouvé une vitesse de croisière puis je suis confortable. Souvent, au niveau des communications, ça s'est amélioré avec le conjoint aussi. Ouais. On a pu trouver notre heure d'aller, puis notre fréquence aussi, parce que ça, c'est souvent, puis je rentrerai pas là-dedans trop loin, mais c'est souvent quelque chose que j'aborde avec les gens en rencontre, c'est que en termes de communication, on n'a pas tous les mêmes besoins. Fait que c'est pas nécessairement positif pour tout le monde de se parler à tous les jours, 1 heure par jour. Ça se peut que pour certaines familles, à certains moments, que ce soit de se parler 1 fois ou 2 jours ou que ce soit de se parler 1 fois dans la semaine, puis ça, c'est par essai-erreur qu'on va trouver qu'est-ce qui nous convient. Fait que souvent, dans la reprise et stabilisation, on a trouvé, c'est ça, qu'est-ce qui convient bien pour notre famille.
Absolument. Puis ça, c'est le bout où, justement, tu sais, je veux dire, on n'est plus, on se cherche plus. Il est dans ses fonctions, je suis dans les miennes. On est chacun dans nos responsabilités. J'apprécie les moments. Tu sais, mettons, là, une fois que tu as couché les enfants le soir, là, je me retrouve toute seule. Oui. J'apprécie les moments de solitude. J'aime ça. Puis là, s'il veut m'appeler, ça me dérange même. Tu sais, je dirais parce que, à moins qu'on ait à se parler, là. Mais c'est-à-dire que, oh oui, on va se parler là, à tous les jours. Sauf qu'il ne faut pas que ça soit trop long parce que moi, il faut aussi que je me garde du temps. Tu sais, dans le fond, c'est que j'ai établi un équilibre. Puis, je peux pas lui donner ce qui me reste, qui est à moi.
Non, parce que ça, tu en as besoin. Puis, c'est souvent ça qui est, tu sais, dans la déstabilisation émotionnelle, c'est ça. J'ai tellement de nouvelles responsabilités à prendre que, momentanément, pendant cette période-là, du temps pour moi, j'en ai quasi plus. Ouais. Parce que toute mon énergie, je la monopolise à essayer de maintenir toute ma famille en équilibre, tu sais, puis à éteindre des feux. Toujours. Ouais. Tandis que quand je tombe dans la période de reprise et stabilisation, j'ai besoin de reprendre mon souffle. J'ai besoin d'avoir ces moments-là pour moi qui me permettent de me ressourcer puis de continuer justement avec ma vitesse de croisière.
C'est ça. Puis ça n'a rien à voir avec l'amour, les sentiments, l'ennui.
Non,
pas c'est pas ça. Là. C'est juste que tu n'es pas là, puis moi, ça continue, puis là, c'est pas un temps pour ça. C'est vraiment, dans le fond, c'est ça. C'est que tu finis par comprendre puis démêler c'est quoi tes besoins. Je pense qu'après plusieurs absences comme ça, ça devient comme un automatisme, tu sais, de tomber dans cet état-là sans se poser de questions. Ouais. Et on le sait tous les deux. Fait que, tu sais, est-ce que tout va bien à la maison? Oui, tout va bien. OK, on se parle plus tard. Mais, tu sais, je pense qu'au début, on pouvait faire ça, tu sais, penser une demi-heure, 45 minutes au bout du fil, là, tu sais, à jaser, puis dire qu'on s'aimait. Mm-hmm. Tu sais, mais là, à un moment donné, tu sais, c'est comme, non. C'est pas là, il réserve à d'autres choses.
Oui, puis souvent, c'est que, tu sais, c'est la peur. Tu sais, quand c'est nouveau, tu le sais pas, puis tu essaies d'entretenir ta relation du mieux que tu peux, puis tu penses que, justement, on est tellement habitués au modèle qui vit ensemble, tu sais, 7 jours sur 7, que tu as peur que cette absence-là vienne nuire à ton couple, alors que quand tu gagnes en confiance au fil des absences, tu vois que l'amour ne passe pas par le fait d'être 7 sur 7 ensemble, puis, tu sais, il y a bien d'autres façons de manifester puis d'entretenir son amour, là.
Oui, absolument.
Puis, tu sais, à cette étape-là aussi, ce qui est caractéristique, c'est que notre niveau de compétence, notre sentiment de compétence revient aussi.
Oui.
Je pense que ça enlève tellement un poids, tu sais, d'un côté comme de l'autre. On sent qu'on a une meilleure confiance, on sent qu'on est plus autonome. Tu sais, tout ça se place, là. Fait que c'est léger, souvent.
Oui. Puis, tu sais, je vais raconter une anecdote, là. À un moment donné, mon chum, il est en... mon mari, mon chum, le père de mes enfants, est en voyage. Puis, je vais chercher ma petite dernière à la garderie, mais à la toute fin de la journée. Donc, la garderie ferme, le dernier employé s'en va. Je suis en train d'installer les enfants dans l'auto. J'en ai 3 à ce moment-là. La petite dernière en train d'installer dans l'auto. Puis, je me rends compte que j'ai un flap. Je suis seule au Texas. Ça faisait pas longtemps qu'on habitait ici. Je suis perdue dans un rang au milieu de nulle part. J'ai personne à appeler. Tu sais, t'as un téléphone, mais...
Oui, je suis correct.
Oui, tu sais. Puis là, je veux dire, normalement, mon chum, c'est la première personne que j'appellerais, tu sais, pour lui dire, ben là, viens m'aider. Je suis pris dans le noir. Il fait presque noir complet. Il y a personne. J'ai les 3 avec moi, puis ils n'ont pas souper, tu sais. Mais là, non. Puis si lui il essaie de m'appeler à ce moment-là, la seule chose que j'allais lui dire, c'est regarde, je suis occupée, je peux pas te parler, je suis dans l'arbre, finalement. Fait qu'on se parlera plus tard. Tu sais, il devient plus la personne ressource, là. Ma stabilité est plus, ne tourne plus autour de lui du tout. Mm-hmm. Là, il fait, je suis en mode, y a-t-il quelqu'un que je connais ici, puis tu sais, je suis ailleurs. Là.
Exact. Puis tu sais, c'est ça qui fait aussi, puis ça aussi, on en avait parlé dans notre discussion précédente, mais c'est ce qui fait en sorte que quand on est expatrié, peu importe la distance, dès qu'on est coupé de notre réseau principal, de nos ressources habituelles, la période de désorganisation émotionnelle est plus déstabilisante parce que justement, je peux moins m'appuyer sur mon réseau. C'est sûr qu'il se développe, comme on disait, là, au fil du temps et tout ça, mais ça reste que c'est pas la même chose que quand on a notre réseau familial qui est notre premier réseau de base, là.
Exactement. Puis ça a fait aussi que quand on venait d'arriver, j'ai l'impression, avec du recul, là, que c'était une des premières choses que je disais aux gens qu'on apprenait à connaître un peu plus, là, pas n'importe qui sur la rue, là. Mais quand je rencontrais des gens puis qu'on développait une relation, là, je leur disais assez vite que Martin était souvent pas là. Et puis, c'était comme une façon de me sécuriser, que les gens sachent que ça se pouvait que je me retrouve seule puis que j'avais besoin de pouvoir compter sur des gens.
Puis probablement qu'en abordant ça, ça te permettait de voir la réaction de ces gens-là et de savoir sur qui tu pouvais compter ou pas.
Exactement. Oui, c'est ça, exactement.
Okay, eux autres sont-ils sur ma liste de ressources ou pas?
Oui. Oui, alors que dans la vie de tous les jours ou avant, là, quand on habitait encore au Québec, puis ils partaient, tu sais, j'avais pas besoin de raconter ça à personne. Mais là, on dirait que c'était, oui, c'était comme pour établir là, qu'est-ce qui se passait autour de nous, c'est qui les personnes ressources, à qui je pouvais demander de l'aide. Puis justement, le soir du flat, là, je savais que j'avais une voisine que je pouvais appeler.
T'sais. Sur qui tu pouvais compter, oui, puis ça, c'est riche.
Oui, exactement. Mais tu sais, ça. C'est dans le fond, c'est que le réseau habituel, il n'est pas là. Donc, ça change la donne aussi. Là,
tout à fait. Oui. Fait que c'est ça. Tout ça nous amène après ça à l'anticipation du retour. Là, souvent, c'est un beau mélange entre l'enthousiasme de « j'ai hâte qu'ils reviennent » puis l'appréhension dans le sens de comment ça va se passer. Est-ce que le retour va venir tout briser l'équilibre puis la routine que j'ai réussi à établir, puis dans laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, d'effort à reconstruire.
La réponse, c'est oui.
Absolument, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui amène le mélange d'émotions de je le sais que ça va arriver. Fait que mes appréhensions, je sais qu'ils risquent d'être fondées, tu sais. Mais en même temps, j'ai hâte de le revoir. Fait que je suis comme partagée entre les deux émotions. Puis souvent, il y a aussi à cette étape-là tout ce qui est des préparatifs du retour qui font en sorte que la tâche peut être perçue comme étant plus lourde. T'sais, on ne se cachera pas que souvent, là, mais le conjoint va revenir, on veut que la maison soit belle, ça soit propre. T'sais, particulièrement s'il est parti, ça fait 3 mois, 4 mois, puis qu'il revient, tu veux que tout soit top, que tout soit parfait. Souvent, tu te mets même la pression d'organiser une espèce de petite fête de retour. T'sais, pour la réalité militaire, c'est typique. Puis je veux dire, on voit plein de vidéos de ça, fait qu'on se met une pression en ce sens-là aussi, mais tu sais, les banderoles de bienvenue, retour à la maison, fête avec des amis, puis ça, ben c'est des tâches qui peuvent être perçues comme étant lourdes aussi, là, tu sais, parce que tu rajoutes ça à tes tâches déjà quotidiennes, fait qu'il y a une pression qu'on se met souvent à cette
époque-là. Mais tu sais, qui veut rentrer à la maison, puis là, bon, je parle dans les absences plus courtes, là,
oui.
Mais en général, qui veut rentrer à la maison, que ce soit le bordel, que ça crie, que ça pleure, qu'il n'y a rien à manger dans le frigo, que le lavage ne soit pas fait, que ça sente, je ne sais pas quoi, le chien, ou peu importe. Je veux dire, moi, là, quand je vais en voyage, puis je reviens à la maison, là, puis qu'il y a une pile de lavage qui m'attend, ça m'écœure, là, tu sais, moi, je tiens fort quand t'es pas là, je tiens à ce que tu fasses aussi, mais, tu sais, je veux qu'il ait le sentiment qu'il soit content de rentrer auprès de nous, tu sais. Fait que les enfants sont de bonne humeur, moi aussi, la maison est propre, fait que oui, effectivement, là, il y a une petite montagne à gravir encore, là, qui est comme de rendre tout ça encore plus fun que d'habitude, là,
Puis une chose qui peut... Puis là, je rentre rapidement dans les stratégies, mais quelque chose qui peut être vraiment aidant à cette étape-là, c'est juste de prendre le temps de valider avec l'autre c'est quoi ses attentes. Parce que souvent, on va mettre tellement d'énergie puis d'efforts dans des choses qui sont même pas importantes ou que l'autre remarquera même pas. C'est pas son besoin. Fait que si on est capable de juste comme venir situer ça puis dire, OK, bien, à ce moment-là, je vais mettre mon énergie sur ce qui compte vraiment pour lui, puis le reste, ben, exemple, si ça ne dérange pas qu'il y ait une brassée de lavage qui n'est pas faite, puis que ça va lui faire plaisir de. Parce que anyway, il va arriver puis il va avoir du lavage à faire, que ça va lui faire plaisir comme d'embarquer là-dedans avec moi. C'est pas une tâche qui pèse lourd. Ben, OK, tu sais, ça se peut que je m'enlève cette pression-là. Mais si je sais qu'il va arriver puis qu'il va avoir faim parce qu'il va avoir voyagé pendant tant de temps, ben le fait d'avoir quelque chose à manger, ça se peut que pour lui, ce soit quelque chose qui soit plus important. T'sais. Fait que de clarifier ça, hein, on peut tellement s'enlever une pression incroyable. Là.
Puis on s'entend qu'on a souvent, en tout cas, pas les mêmes attentes, là. Ça, c'est clair. Tu sais, je pense que dans le cas de mon chum, en tout cas, là, ça lui ferait pas un pli que la plupart des choses que j'ai faites n'ont pas été faites, tu sais. Mais l'ambiance dans la maison est importante.
Exactement.
Qu'on soit content de le voir, puis tu sais, qu'il rentre pas dans la maison, puis que, je sais pas, moi, il y en a un qui pleure, l'autre qui est malade, moi, je sacre, tu sais, peu importe ce que c'est, là. Je veux dire, faudrait pas que ça soit ça, tu sais.
Je le sais.
Oui, mais ça, c'est avec le temps, parce que, bon, tu sais, je veux dire, c'est l'expérience aussi. Mais de l'autre côté, oui, il y a cette pression-là qu'on se met pour l'autre, mais il y a aussi, moi, je trouve le dérangement un peu personnel, tu sais, je veux dire, malgré l'amour et tout ça, là, quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6 jours que le soir, tu finis par avoir ton petit moment, tu as commencé à apprécier que, tu sais, à tous les soirs, je sais pas, moi, tu as pris un bain tranquille avec des chandelles. Peut-être à coup, lui, là, il vient cogner dans la porte de la salle de bain, qu'est-ce que tu fais?
Exactement, ça vient péter ta routine, là.
Oui, oui, oui.
Ouais, tu sais, pendant les périodes d'absence, c'est là qu'on va se développer des nouveaux intérêts, des projets, des passions. Puis là, quand l'autre revient, ben, on a moins de temps à accorder à ces projets-là, à ces passions-là. Fait que c'est irritant.
Oui. Oui, puis tu sais, je veux dire, ce qu'on fait avec lui n'est pas moins le fun, n'est pas, c'est juste différent, sauf que là, tu as pris un rythme de te faire plaisir d'une façon différente parce que tu es seule, puis là, il faut que tu partages ce temps-là, ou tu sais, puis en tout cas, ça change.
Ça, c'est super intéressant, parce que ça amène vraiment à l'étape suivante, mais tu sais, brièvement, là, très très rapidement, avant de passer à l'étape suivante, ce que j'ai le goût de dire, puis de juste plugger, en fait, là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais... Les cinq langages de l'amour, là, si vous ne connaissez pas ça, là, de Gary Chapman, allez le lire ou allez faire les tests sur Internet, il y en a qui se font, parce que ça, là, ça peut avoir un impact sur les différentes étapes du cycle émotionnel de l'absence, parce que, justement, ça parle beaucoup sur ce que l'autre a besoin pour se sentir aimé quand il va revenir, justement, versus qu'est-ce que moi, j'ai besoin pour me sentir aimé. Puis si on est capable de clarifier ça, ben ça peut nous aider vraiment beaucoup, t'sais? Autant pour nous que nos enfants aussi, là, parce qu'eux aussi en ont un langage de l'amour. Mais bref, je rentre pas là-dedans parce que ça, je pourrais aller très loin là-dedans. Mais
si vous connaissez... Mais c'est drôle quand même que tu lèves ça là, parce que moi, tu vois, j'ai lu ce livre-là, ça fait 3-4 ans, là, puis je pense que ça n'a pas ni changé, ni, je ne peux pas dire, améliorer notre vie de couple, là, parce que ça allait très bien, mais je pense que ça, oui, ça a quand même changé des choses, ça l'a éveillé. On a pris conscience, c'est ça, d'éléments dans notre relation. Puis tu vois, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'avant qu'il parte cette fois-ci, je lui ai demandé. Et en fait, on a comme revu notre langage de l'amour ensemble. On en a parlé là, de cette façon-là. Puis tu sais, ça a changé ce voyage-ci. Tu sais, ça a fait qu'il y a des choses. Tu sais, par exemple, je lui ai posé des questions sur sa conférence qu'il donnait hier. Alors que souvent, je ne prends pas le temps de faire ça. Mm-hmm. Mais là, il m'a manifesté ce besoin-là que je m'y intéresse malgré le fait que je suis dans le jus avec d'autres choses. Puis tu sais, de mon côté, j'ai manifesté d'autres choses. Puis tu sais, oui, cette communication-là est super importante.
Oui, puis on en retire chacun quelque chose, tu sais. Oui.
Ah ouais.
Parce que si toi, tu es plus à l'écoute de son besoin, mais nécessairement, lui, il va te le redonner.
Oui.
D'une autre façon. Fait que tu vas être gagnante au change quand même, là.
Absolument.
C'est très intéressant. Mais bref, je disais que ça nous amenait super bien ce que tu disais à la prochaine étape, qui est l'étape de renégociation des relations.
Oui.
Fait que ça, c'est une période qui est essentielle au retour, puis qu'on a souvent tendance à vouloir escamoter. Dans le sens que c'est là où on a besoin de faire le point sur la relation. On évolue chacun de notre côté. Puis même si c'est une absence qui n'est pas longue, on a chacun, comme tu le disais, tu sais, toi, tu as développé, par exemple, des activités qui te font du bien, puis que tu n'as pas le goût de laisser tomber totalement parce que tu as réalisé tout le bienfait que ça t'apporte. Lui, de son côté, il y a des constats qui se font aussi. Donc, de prendre ce moment-là pour renégocier la relation, de dire, OK, ben comment on peut ajuster tout ça. T'sais, moi, ça, c'est important pour moi. Je comprends que je ne pourrais pas le faire dans la même intensité que je le faisais en étant seule quand tu n'étais pas là, mais comment on peut y garder une place à ça pour faire en sorte qu'au niveau de notre relation, ça soit encore mieux. T'sais. Fait que, c'est souvent un petit moment où il peut y avoir une difficulté à rétablir l'intensité émotive ou sur le plan sexuel. T'sais, la même chose qu'avant le départ, là, en fait. Puis encore là, par mécanisme de protection, j'ai souvent des clientes dans mon bureau qui, au moment où leur conjoint revient d'un long déploiement, ils ont trouvé ça difficile, ça a été une épreuve éprouvante, puis leur corps réagit au retour. C'est comme s'ils sont en colère par rapport au conjoint en lien avec ce qu'ils ont vécu, puis ça, ben, ça peut générer des blocages justement au niveau de l'intimité puis de la sexualité. Donc, c'est là où c'est important d'avoir ces discussions-là sur comment on a vécu chacun de notre côté l'absence, puis comment on a grandi et comment on continue d'évoluer à travers tout ça.
Oui, parce qu'à quelque part, je pense qu'il faut un peu te convaincre que tu n'as pas besoin de l'autre. Tu comprends, tu sais, que tu vas le faire tout seul, peu importe quoi, là, tu sais, que tu vas y arriver, puis que toute seule, toi, ta personne peut tout faire. Puis là, après ça, l'autre revient. Puis tu efface des mécanismes, là, aussi, là.
Exact. Puis, tu sais, juste dans la gestion de la famille puis des enfants, tu sais, on se cachera pas qu'on a établi une routine, tu sais, il y a un cadre. C'est beaucoup plus facile d'être constant et cohérent quand tu es toute seule que quand tes deux parents appliquent un cadre de vie ou des règles, tu sais.
Absolument. Moi, je trouve que ça va 10 fois mieux quand... Tu sais, à ce niveau-là, là, juste ça, là. Mais je trouve que, tu sais, l'enchaînement des trucs des enfants, là, après l'école, là, les devoirs, les lunchs, le souper, les bains, ta, c'est, ça coule 2 fois mieux quand je suis la seule, tu sais, en mode directive, là, en mode, c'est ça, après ça, c'est ça, après ça, c'est ça, que quand on est deux puis qu'on ajoute aussi, c'est sûr qu'on ajoute plus de lousse puis plus de fun quand on est deux, c'est plus lousse. Parce qu'on est deux à pouvoir faire le côté plus direction. Mais oui, ça c'est. Je pense que c'est définitivement une différence. Là, après, là, quand il revient, on repère le rythme.
Oui, puis ça crée des frustrations aussi, souvent pour la personne qui est restée, parce que justement, j'avais réussi à établir un mode de fonctionnement qui allait bien. Puis là, les discours que j'entends souvent, c'est ça, toi tu reviens puis tu me scrapes tout ça, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Finalement. Ouais, fait qu'il y a des frustrations, il y a du ressentiment, on se sent désorganisé à nouveau, puis là, mais on a déjà passé par là, ça fait pas si longtemps, fait qu'on n'a pas le goût de retomber dans cette désorganisation-là. Mais là, la différence, c'est qu'on est deux pour y faire face cette fois-là. Fait que c'est là où il faut vraiment s'allier puis faire équipe en lien avec ça. Puis tu le nommais, mais il y a souvent aussi à cette étape-là des déceptions en lien avec le fait que je perds une certaine liberté puis une autonomie, tu sais. Parce que l'autre est là, puis ben il faut que j'entretienne ma relation de couple maintenant, là. Fait que ça nécessite du temps, nécessairement.
Oui, c'est ça. Fait que là, tu te laisses un peu le petit temps que tu te gardais juste pour toi, te récupérer plus de temps de ce temps-là parce que l'autre est revenu, mais en même temps, il faut que tu le remettes, on dirait, à ton conjoint, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, au début, tu ne l'as pas tant gagné parce que, ben on est deux pour faire les tâches, sauf que la routine est déstabilisée. Fait que ça demande d'investir plus d'énergie, le temps de la restabiliser.
Oui.
Fait que, tu sais, le temps que tout ça se place, ben j'ai l'impression que je suis en déficit, là. Fait que, tu sais, j'ai perdu des acquis que j'avais eus au courant des dernières semaines. Fait que ce qui nous amène à la dernière étape, qui est vraiment la période qu'on appelle réintégration et stabilisation. Fait que c'est un peu la reprise et stabilisation qui se passe au milieu de l'absence, mais ça, vraiment, au retour. Fait que nos nouvelles routines sont établies. La répartition des rôles a été faite. On a trouvé notre aire d'aller. Notre vitesse de croisière est bonne, tout le monde se sent bien là-dedans. On a retrouvé le rapprochement et tout ça, l'intimité s'est recréée, autant entre les conjoints, mais aussi au niveau familial, là, entre le parent et les enfants. Et c'est là où, tantôt qu'on disait qu'il y a un enjeu quand les absences sont courtes mais fréquentes, c'est que ben, souvent on a à peine réussi à se restabiliser qu'on rembarque dans une autre boucle d'anticipation du prochain départ, puis de, tu sais, tout ça s'enchaîne. Fait que ça, c'est là où ça peut devenir épuisant.
Parfois, tu vois, au moment où on se parle, là, j'ai, tu sais, au moment où l'enregistrement va être en ligne, ça va être passé, là, ce que je suis en train de dire. Mais au moment où on se parle, effectivement, mon conjoint n'est pas là cette semaine. Et après ça, on a une semaine ensemble, et après ça, il n'est pas là encore la semaine suivante. Là, je regarde ça, puis avec ce qu'on vient de se dire, les 7 étapes, tu passes ça dans le temps, puis je me dis, on a peut-être une journée stable entre les deux, où on est dans on est réintégré et stable, pas encore dans l'anticipation, mais réintégré et stable.
C'est fou. C'est fou. Puis, tu sais, Ça, c'est pas pire parce que vous avez un calendrier qui vous permet de savoir. Quand on le vit régulièrement, puis qu'il s'ajoute à ça le fait que ce soit imprévisible, que ça arrive à une courte durée de préavis, ben là, ça nous, tu sais, on a déjà de l'usure, puis ça vient nous déstabiliser encore plus. Tu sais, il y a comme une espèce de... Puis là, je suis même bien visuelle, là, fait que là, il faut que je l'illustre sans le dessiner, mais... dans les 7 étapes qu'on traverse dans le cycle, là, mais on part, si on veut, sur notre ligne qui est comme neutre, on monte au niveau de la déstabilisation émotionnelle, fait que ça nous fait une courbe vers le haut où on atteint notre pic de déstabilisation. Puis après ça, ben, notre niveau de réaction diminue jusqu'à le fait de se stabiliser tout ça. Puis là, ben, quand le retour s'en vient, je remonte dans un pic de réaction qui va se replacer avec la réintégration puis la stabilisation. Fait que là, je ne sais pas si mon image est claire, sans visuel, mais quand je vis des séparations qui sont de courte durée, mais qui sont répétées, ce qui tend à arriver, c'est qu'au niveau de la réaction, ben, ça se peut que ma réaction, je devienne de plus en plus en réaction. Fait que je monte toujours un petit peu plus haut au niveau de la réaction parce que je suis usée, parce que je suis fatiguée. C'est là où l'étape dans laquelle on doit être le plus vigilant, c'est au niveau de la déstabilisation émotionnelle. Parce que faut savoir qu'elle est normale, puis c'est correct de l'avoir, mais il faut être vigilant si elle se maintient dans le temps ou si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration qui s'installe. Tu sais, il existe un continuum de la santé mentale, là, qui est comme en santé, après ça, fragilisé, malade, puis blessé, puis c'est avec un code de couleur de vert jusqu'à rouge, là. Mm-hmm. Puis c'est correct d'être déstabilisé tout ça, mais d'être en réaction, mais idéalement, on ne veut pas se rendre dans le malade, puis dans le blessé et dans le malade. C'est ouais. Là où on est plus dans le chronique. Fait que si on voit que dans mon vert, jaune, orange, rouge, là, si je suis dans le jaune, dans ma déstabilisation émotionnelle, c'est normal, c'est correct. Si je vois que je tends vers le orange, ben là, ça se peut que j'ai besoin davantage de ressources externes, que mes ressources internes ne suffisent pas, puis que j'ai besoin d'un petit peu plus de support. Puis si je me sens vraiment que je suis ancrée dans le orange, puis que j'ai de la misère à me ramener vers le jaune, ben là, c'est important d'aller chercher du support pour éviter de tomber dans le rouge, justement, puis d'être dans le malade, là.
Puis justement, quel genre de truc ou quel genre de support, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire qui vivent le phénomène de l'absence puis qui, tu sais, qu'ils vivent plus ou moins bien ou peut-être avec un peu trop d'usure?
Ben, tu sais, à la base, là, de se connaître, de se préparer en lien avec une absence en sachant, tu sais, en prenant cette étape-là, là, puis d'être capable de savoir, tu sais, moi, j'ai beau être travailleuse sociale, là, puis intervenante, ou peu importe les titres qu'on me donnera, je vis quand même, c'est cette étape-là. Puis ma déstabilisation émotionnelle, je la ressens quand même. Fait que le fait de se connaître, puis de savoir, d'anticiper un peu comment on va réagir, ça permet de mettre des choses en place. Je te donne un exemple concret. Si moi, par exemple, je sais qu'au niveau de ma déstabilisation émotionnelle, ça a tendance à être un petit peu plus intense parce que je suis plus dans l'usure, par exemple. Bien, c'est là où il va falloir que je réfléchisse seule ou avec l'aide de quelqu'un d'autre, d'un professionnel ou même d'un ami qui a un regard extérieur dans un premier temps. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd pour moi quand je suis en étape de déstabilisation émotionnelle? Puis qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour alléger ça? Si, par exemple, dans ma situation personnelle, c'est le fait de faire de la nourriture, préparer les repas pour les... Bien, ça se peut-tu que dans ces exemples-là, si je le mets sur une période... Mettons que je le mets sur une absence d'une semaine. Mm-hmm. Mettons que je sais que ma déstabilisation émotionnelle, exemple, c'est les deux premiers jours. Mais je peux-tu prévoir des repas qui sont déjà faits pour ces deux jours-là pour ne pas avoir à cuisiner, pour être capable d'avoir plus d'énergie pour vivre justement ce que je suis en train de vivre sur le plan émotionnel? Est-ce que si j'ai des activités de loisirs avec les enfants, est-ce que je peux m'assurer d'avoir de l'aide pour ces activités-là si je sais qu'ils vont survenir dans des moments où ça va être plus difficile pour moi? Fait, qu'est-ce qui est lourd pour moi dans ces périodes-là, puis qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte de m'alléger un petit peu. Fait que dans un premier temps, ça. Dans un deuxième temps, la communication. On n'en parlera jamais assez, mais tu sais, de communiquer avec le conjoint, de comment on vit chacune des étapes, puis quelles sont nos attentes et besoins. Là, je vais t'illustrer quelque chose que c'est mon illustration typique, puis elle est vraiment pas belle. Un jour, je trouverai peut-être quelque chose de plus beau pour l'illustrer, mais tu sais, quand une gastro, là, c'est quoi ton attente de la part de ton conjoint? Bien, souvent, c'est juste qu'il te tende le plat pour que tu vomisses dedans. Mm-hmm. T'attends pas à ce qu'il règle ta gastro parce que tu le sais que c'est un virus et ça n'a pas le choix de passer par là. Il faut que ça sorte. Mm-hmm. Bien, c'est la même chose. Quand tu vis la période de déstabilisation émotionnelle, si tu es capable de clarifier avec ton conjoint c'est quoi tes attentes, là, mais c'est beaucoup plus simple. Parce que ça va éviter qu'il tombe justement, lui, dans le fait de se sentir impuissant et tout ça, puis qu'il ne réponde pas à ton besoin, qui est juste de déverser ce que tu as déversé. Fait que si lui, il sait que quand je suis en déstabilisation émotionnelle, bien, quand il va m'appeler, là, j'ai besoin d'un moment pour déverser, puis que tout ce que j'ai besoin, c'est qu'il m'écoute. Qu'il soit là pour écouter, sans être en mode solution, c'est pas ça que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, c'est juste qu'il me dise « t'as raison, c'est un moment difficile, tu le sais ». Que la prochaine étape, c'est ça, ça va aller. Maintenant, qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est juste de se faire rappeler ça. Souvent, là, c'est immense, tu sais. C'est ça. Tu vis un moment difficile, puis que là, ton conjoint, tu sais, imagine ça, là. Souvent, quand je dis aux conjoints, ils sont comme, oh mon Dieu. Tu sais, imagine que tu vis un moment difficile, tu le déverses à ton conjoint, puis que sa réaction, c'est, hey, t'as raison, mon amour. C'est vraiment pas facile en ce moment, là. Qu'est-ce qui te ferait du bien à soir? Ou si, au-delà de ça, s'il te connaît encore mieux, là, s'il te dit, Mais pourquoi tu ne te collerais pas des sushis à soir? Ça te ferait plaisir. Ou pourquoi tu ne prendrais pas un moment pour prendre un bain? Ou pourquoi tu n'appellerais pas tel ami? Tu sais, si tu autorises juste ce petit plaisir-là, là, mm-hmm. que tu n'as souvent pas tendance à être en mesure de t'autoriser parce que tu es en plein dedans. Tu ne vois plus les solutions. Tu ne sais plus ce qui te ferait du bien. Tu es juste dans ton intensité. Mais clarifier ça, ça a un pouvoir immense aussi.
Ah, tellement.
Si on voit que ça se maintient justement, puis c'est plus difficile ou que ça a des impacts collatéraux aussi, là, tu sais, si je vois que ça commence à avoir des impacts de plus en plus sur mon travail, sur ma relation avec mes enfants, sur, tu sais, plus large, ben là, ça peut être justement d'aller chercher de l'aide professionnelle pour être capable de voir plus clair à travers tout ça, puis de mettre en place des stratégies pour éviter que ça continue à, tu sais, j'allais dire escalader, mais c'est plutôt dans l'inverse, là, à d'escalader, ouais. Non, ça se dit pas, mais bref, à descendre.
Qui descend vers le bas, tu sais, c'est
ouais,
comme
c'est
de tomber dans quelque chose qui n'est plus de fin.
Exact, fait que il faut mettre un frein à ça.
Je pense que c'est au niveau de la communication, il y a ça, là, premièrement. Puis l'autre chose, là, je trouve, qui aide beaucoup dans notre cas, en tout cas, c'est que moi aussi, je suis partie quelques fois.
Ouais.
Puis, comme je disais, on a 4 enfants. Donc, ben, en fait, je pense que tout le monde qui m'écoute le savent. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé des moments où moi, j'étais à l'extérieur, puis il s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc, maintenant, quand, tu sais, par exemple, il va appeler à 6 heures, puis que je suis dans le bordel du souper, puis je ne soirée pas pour manger, on s'entend, là, je vais passer le souper debout. Là. Ben, à ce moment-là, s'il m'appelle, là, tu sais, je vais lui dire, est-ce que c'est urgent parce qu'on est dans le souper? Il sait ce que je veux dire. Tu sais, j'ai pas besoin. Il se sent pas, il n'est pas insulté, là, parce que j'arrête toutes les activités pour lui. C'est comme, OK, go, let's go, lâche pas, j'étais avec toi, je t'aime, on se parle plus tard.
Ouais.
Ça, là, cette compréhension-là, là, de ce que tu sais, c'est immense.
Puis, tu sais, souvent, c'est pas faute de vouloir, tu sais.
Ouais.
Les gens, ils l'ont juste pas vécu de l'autre côté, ils comprennent pas. Fait que...
C'est ça.
Puis, tu sais, c'est pas rare où je demande aux gens, mais c'est quoi ton besoin exactement, tu sais, à l'endroit de ton conjoint? Puis, c'est pas rare que les gens finissent par me dire, ben, je le sais pas. C'est pas clair, tu sais. Mais comment tu veux qu'ils répondent si c'est pas clair pour toi? Fait que, tu sais, la première étape, c'est si on est capable de définir ça. Quel est mon besoin? Ben là, si je peux le communiquer à l'autre, j'ai plus de chances que mon besoin soit répondu. Tu sais.
Absolument. Puis le fait qu'on en parle comme ça, je trouve que ça aide tellement à démystifier le phénomène puis à se comprendre un peu plus à travers ça. Il y a une question que j'aimerais te poser, Stéphanie, qui doit être posée. J'ai l'impression que ça t'est posé probablement souvent parce que c'est une réalité. Pour ma part, ça fait longtemps que c'est en arrière. Fait que je te dirais que on dirait que les outils sont pas frais. Puis j'aimerais savoir, je t'ai pas prévenue, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses. C'est qu'on m'a questionné plusieurs fois dans la main à savoir, c'est comment tu fais au niveau de la confiance, tu sais, la distance, de pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre pendant ce temps-là. C'est sûr là, qu'il y a des choses malheureuses qui se passent là aussi. Fait honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse à ça parce que je me sens un peu plus comme dans le... C'est dans un pilote automatique de mes propres expériences. Puis, tu sais, je veux dire, la vie à date me donnait suffisamment de réponses. Mais je comprends cette anxiété-là.
Oui.
Je serais curieuse de voir qu'est-ce que tu as à répondre.
Bien, je te ramène au langage de l'amour, OK? Je t'explique pourquoi. C'est que je pourrais pas... Il n'y a pas une réponse qui est universelle parce que ça dépend... J'ai besoin de rassurer, d'être rassurée en lien avec ma façon de me sentir aimée. Fait que si moi, ma façon de me sentir aimée, par exemple, c'est les moments de qualité, ben j'aurais pas besoin de la même chose en vivant une absence avec mon conjoint que si moi, ma façon de me sentir aimée, par exemple, c'est plus tout ce qui est des petites attentions, là, de recevoir des choses comme ça. Fait que, tu sais, admettons pour la personne que c'est les moments de qualité, mais ce qui va être vraiment plus rassurant pour elle, c'est si son conjoint, quand ils ont des communications, justement, est capable d'être 100% là pour elle. Que le contact soit, tu sais, qu'il choisisse des moments pour l'appeler où il ne sera pas interrompu parce qu'il y a un collègue qui va venir pour y parler ou parce qu'il y a un cellulaire qui va sonner ou parce que, tu sais, que ça soit vraiment un moment de qualité quand ils peuvent se parler. Ça, ça va avoir tendance souvent à venir rassurer puis augmenter cette confiance-là. Tandis que la personne, exemple, que c'est les petites attentions, bien, elle, de recevoir un coucou par texto à quelques moments dans la journée, ne serait-ce que juste un emoji ou quoi que ce soit, mais elle, c'est quelque chose qui va la rassurer parce qu'elle va se dire, bien, l'autre pense à moi. Tu sais, je reçois ces petites attentions-là. Fait que là, il y a quelque chose qui est ultra important parce que ça ne veut pas dire que c'est la même chose qui va me rassurer moi que ce qui va te rassurer toi. Il n'y a pas une façon. Puis souvent, le conjoint va essayer tant bien que mal de le faire, mais en fonction de son langage de l'amour à lui.
À lui, oui.
Ça ne veut pas dire que ça va répondre au langage de l'autre. Fait que le, puis, et vice-versa. Ce qui veut dire que, parce que tu sais, on va se le dire, là, mettons que je prends la réalité des conjoints militaires, oui, il y a les conjoints qui ont peur de ce qui se passe, mais il y a aussi les militaires qui ont peur de ce qui se passe parce que, réalistement, le militaire s'en va en déploiement, il est dans un contexte où il y a une tâche à faire, où il, oui, il y a des collègues, là, mais au-delà de ça, le contexte est plus limité, tandis que la conjointe, elle, reste ici, elle continue dans son environnement à rencontrer toutes sortes de gens. Fait que d'un côté comme de l'autre, cette inquiétude-là peut être présente. Je reviens à ce que je disais, c'est que si moi, ma façon de me sentir aimée, c'est au niveau verbal, fait d'avoir des beaux mots et ces choses-là, et que c'est ce que je donne à mon conjoint, alors que lui, ce qu'il a besoin, c'est autre chose, je ne répondrai pas à son besoin. Puis je vais avoir l'impression que je mets tous les efforts du monde à le rassurer, puis je ne comprendrai pas pourquoi ça ne marche pas, puis ça va créer des frustrations. Et là, quand je rentre en mode frustration, ben c'est là où je suis plus sur la défensive, que là, quand ça arrive à distance, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, ça va rapidement. Pourquoi il est sur la défensive? Est-ce qu'il y a quelque chose à me cacher? Est-ce que là, ça spin, là?
C'est ça. Donc, tous ces gars-là, on le conseille absolument, là, moi aussi, à tous, dans leur vie de couple, même dans leur vie juste personnelle, interpersonnelle, puis dans leur relation.
Les gens ne veulent pas le lire, là. Si c'est pas des gens, si vous n'êtes pas des lecteurs, là, il y a des tests sur Internet, là. C'est comme quelques questions à répondre, puis ça vous dresse quand même un profil qui est intéressant sans avoir à lire tout le livre. C'est une bonne base quand même.
C'est ça, puis même ça, je dirais que, tu sais, à partir du moment où, mettons, moi, je l'ai lu, là, j'ai compris le principe, là. J'ai expliqué ça à mon chum, il n'est pas allé sur Internet, tout ça, mais on s'en est parlé. Tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes comme ça? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? Mais tu sais, on a démystifié la patente, on en reparle une fois de temps en temps. Tu sais, on s'ajuste.
C'est qui pour vous? Tu sais, vous le savez. Maintenant. C'est ça.
Exactement. Ce livre-là, est-ce qu'il l'a lu? Jamais. Mais il a compris le principe, tu sais, de, je veux dire, dis-le-moi, puis je vais te le dire, puis après ça, on va mettre en application ce qu'on apprend un de l'autre, puis tu sais, je pense que c'est la meilleure façon, tu as bien raison, d'échanger, de se parler, de se comprendre, puis de se sentir aimé, parce que c'est ça, souvent, c'est pas une question de tu m'aimes-tu, c'est une question de comment tu me le montres, comment je le ressens, comment je le reçois, tu sais.
Puis, tu sais, un exemple concret là-dessus, c'est le conjoint qui va te dire, mais voyons, je t'appelle à tous les jours, tu sais.
C'est ça, ouais.
Ou je t'appelle 3 fois par jour. Ouais, mais quand tu m'appelles, t'es toujours en train de faire d'autres choses, ou tu sais, je te sens pas 100% là. Là, on comprend que c'est la conjointe qui a besoin, tu sais, du moment de qualité. Elle, ça répondra pas à son besoin. C'est puis ça. Là, lui, il va trouver ça lourd. Là, mais comment tu veux? Fait que, tu sais, quand on se comprend pas, puis non, pas besoin de l'avoir lu. Tu sais, mon conjoint, il l'a pas lu non plus, mais... récemment, je lui ai demandé, tu sais, avec nos enfants, j'ai dit, tu sais, Sébastien, selon toi, Félix, c'est quoi son langage de l'amour? Ben, c'est quoi? Puis Naomi, c'est quoi? Puis là, il a comme eu un 2 minutes dans le sens où il a compris que ça s'applique à tout le monde.
Ouais.
Puis que même dans sa façon d'être papa, puis de vivre les absences, puis de donner de l'amour à ses enfants en lien avec ça, ils n'ont pas tous le même besoin, tu sais. Il y en a un pour qui c'est absolument pas important. Quand son père est absent, d'y parler par FaceTime, il n'y a aucun intérêt, ça ne répond pas à son besoin, à lui. Lui, ce qu'il a besoin, c'est autre chose. Fait que, tu sais, c'est puissant quand même, ce que ça peut faire, là.
Puis ça m'amène aussi à ajouter l'importance de leur dire, de les préparer. Tu sais, quand mon chum part, là, c'est jamais après. Tu sais, you, papa, ah, il est parti. Tu sais, c'est jamais ça. Là. Il y a toujours une préparation aussi. Ça te dit, cette semaine, papa va partir ou la semaine prochaine. Papa va partir en voyage. Puis cette semaine, papa va partir en voyage. Puis demain, papa s'en va en voyage. Puis papa, il s'en va pour tant de temps. Puis tantôt, papa, tu sais, je répète ça. Là, puis je me dis, quand il part, là, tout le monde le sait qu'il part. Puis tout le monde s'est préparé. Émotivement, dans l'organisation de la vie en général aussi, à ça. Puis en plus, je veux dire, on a pris l'habitude aussi, là, mais c'est jamais une surprise. Puis là, j'ai remarqué, tu vois, cette fois-ci, j'ai oublié de le dire à celle qui a 2 ans, tu sais, dans le sens où, tu sais, je me suis pas arrêtée là, pour lui dire ça.
À elle, précisément.
Oui, exactement. On en parlait, mais bon, ça n'a comme pas pris conscience de ça. Puis là, il est parti, puis à peu près 10 minutes après, elle s'est levée de sa sieste, puis elle me dit « Yo, papa! » Mais papa, il était parti. C'était bizarre, là. Tu sais, c'était une erreur, je pense.
Oui, puis tu sais, puis ça, c'est bien. Puis il faut être conscient du type de personne qu'on est aussi, dans le sens où les conjointes, ben, ou conjoints, ceux qui restent, bref, qui ont un tempérament plus anxieux, faut être vigilant pour pas transmettre notre anxiété d'anticipation du départ à nos enfants aussi. Ah, et oui. C'est là où un truc que je donnerais à ceux qui sont plus anxieux et que le fait de l'aborder avec les enfants génère beaucoup de stress, puis même pour ceux qui ne sont pas anxieux, avec les enfants, c'est l'utilisation des repères visuels. Puis ça, souvent, on a tendance à les minimiser. T'sais, nous, comme adultes, là, c'est acquis. Ça fait longtemps qu'on travaille avec ça. On écrit nos choses dans nos téléphones, on a un calendrier.
Oui, c'est ça.
Mais pour les enfants, de leur mettre visuellement, là, fait que à partir du moment où tu leur dis « papa part dans une semaine », ben, qu'il y ait un cue visuel pour qu'ils soient capables de voir eux-mêmes de façon autonome ou de s'y référer aux besoins, c'est où sur le calendrier que papa y part, puis combien de jours approximativement que papa y part, parce que toi, ça peut être plus fiable, mais dans la réalité militaire, les dates de retour puis les dates de départ, ça bouge beaucoup, mais de le représenter, puis que l'enfant soit capable visuellement et de façon autonome d'aller se rassurer en lien avec ça, c'est ultra intéressant, tu sais. Puis on n'est pas obligé d'acheter des affaires qui coûtent super cher. Oui, il y en a des super beaux outils qui ont été développés par des compagnies extraordinaires, là, mais tu sais, on peut y aller aussi simple qu'avec un calendrier bien, bien basique sur lequel on met une avion, on colle une avion sur la journée que papa part, puis après ça, on met une photo de papa sur la photo, la journée que papa revient, puis à chaque jour, on avance une gommette pour dire « je suis rendue à quel jour ». Ça peut être aussi simple que ça visuellement pour que l'enfant puisse se repérer puis voir dans le temps ce que ça représente.
Écoute, on vient de changer le calendrier de mois, là. On vient juste de le faire, puis j'ai rien écrit sur le calendrier, puis tu me fais penser que c'est ça que je fais dès qu'on termine l'enregistrement. Je vais aller leur mettre ça visuel, là, étant donné qu'on a un mois assez chargé de voyage aussi.
Ouais.
Et que c'est
facile parce qu'après ça, comme parent, tu peux les référer puis les rendre autonomes. Tu sais, s'ils te posent la question, tu peux leur dire, ben va voir sur leur calendrier, va voir on est où aujourd'hui, puis tu as ton repère visuel de la journée. Va voir on est où aujourd'hui, puis là, tu peux compter. Il reste combien de jours avant la photo de papa, puis si ça bouge, bien, tu déplaces la photo. Moi, tu sais, la photo avec une gommette en arrière, c'est super facile, ça se réutilise, puis peu importe qu'est-ce que tu utilises pour dire la journée du départ, mais ta même image, tu les gardes, puis après ça, c'est super facile à utiliser, là.
Comme ça, ils prennent conscience puis se responsabilisent face à leur cycle aussi, là, tu sais, leur cycle d'absence, parce qu'ils peuvent se préparer, ils peuvent se gérer un peu plus.
Ouais. Puis moi, je trouve ça ultra le fun de l'aborder avec les enfants aussi. T'sais, puis même quand ils sont petits, c'est sûr que là, plus petit, c'est plus difficile. Mais mettons, ma fille, elle a 7 ans, là, puis on aborde les étapes du cycle ensemble. On l'aborde, puis elle le sait. T'sais, fait que là, je lui dis, bien là, tu sais, moi, je dis pas les noms, là, mais là, on est dans l'étape 1. Fait que là, t'es plus, tu sais, moi, elle a un tempérament anxieux. T'es plus anxieuse présentement. De quoi t'as besoin pour te rassurer? Là, après ça, quand on arrive dans la deuxième étape, elle a tendance à bouder son père avant qu'il parte. Elle ne veut plus être avec lui. Mais tu sais, on met des mots puis on normalise ça. Là, c'est ça qui se passe, c'est correct. Tu n'es pas obligé. Puis papa le comprend aussi, c'est correct. Qu'est-ce qui te ferait du bien à cette étape-ci? Puis vice-versa, tu sais, au fil des étapes. Fait que ça, c'est aidant aussi comme parent.
Vraiment. Écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai adoré ça. Puis je pense que ça va donner aussi une explication, mais dans plein de... Tu sais, ça n'a pas besoin d'être conjoint de militaire, ça n'a pas besoin d'être expat, ça n'a pas besoin d'être... Tu sais, en fait, c'est dans la vie de tous les jours, quand les conjoints vivent des absences de votre conjoint pour toutes sortes de raisons, ça peut être, je sais pas moi, un conjoint camionneur qui s'en va à tous les temps de temps.
Pour son... Ouais, les gens qui travaillent dans le Nord.
C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui vont partir plusieurs mois, il y en a qui vont partir quelques jours. Sauf que ça a toujours une répercussion. Puis si on n'explique pas, donc on comprend pas nécessairement, fait qu'on fait juste se laisser aller dans un flot d'émotions. Mais à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment plus facile à gérer quand on comprend puis qu'on en parle finalement. Un gros merci, j'apprécie énormément. Puis dis-nous donc, Stéphanie, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut aller plus loin là, à travers ces questions-là avec toi?
En fait, je suis sur Facebook, Stéphanie Villeneuve, trait d'union, travailleuse sociale, et je suis sur Instagram aussi, Villeneuve Stéphanie pour la recherche, mais sinon c'est Stéphanie Villeneuve TS, donc on me retrouve facilement.
Puis j'aime tellement te suivre aussi sur Instagram parce que je trouve que tu as des bons fils de réflexion que tu abordes dans tes publications, c'est super intéressant. Et un gros merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment intéressant.
Bien, merci à toi pour l'invitation.
Oh, Stéphanie, j'allais oublier et je n'oublie pas. J'ai les 5 questions qui tuent à la fin de l'entrevue. Donc, tu as été la première à ne pas y passer. Donc, rapidement, quelle est ta meilleure série Netflix à vie?
Hey, je vais être plate, hein, mais j'écoute pas la télévision du tout.
Ben, aucun problème. Donc, je saute à la...
Même, oui.
Je dis toujours, si tu écoutes une série Netflix, c'est la première fois que je comprends.
Voilà.
C'est
drôle. Mais voilà.
Deux, est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, quel est le dernier que tu as écouté?
Oui, j'en écoute plusieurs. Le dernier que j'ai écouté, ça devait être... C'est une bonne question. J'écoute le tien, j'écoute celui de l'Ingérable, j'écoute celui Expansion de Mélissa Potier. J'en écoute tout plein, celui de Karine Ricard. Bref, ça en est quelques-uns.
Un de ceux-là.
Je ne sais plus lequel, là, mais j'en écoute à tous les jours.
Super. Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
Oui, actuellement, je suis en train de lire The Big Leap, Le Grand Saut.
Ah oui, j'ai entendu parler de ce livre-là, puis
c'est génial.
Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans la destination de ton choix, ce serait laquelle?
Et une destination, je pense que j'irais découvrir l'Irlande, parce que j'ai des descendances irlandaises, fait que la curiosité m'appelle.
Les racines.
Ouais.
La dernière question, on va l'adapter au contexte qui est le tien. La question, c'est penses-tu que l'on est expat ou qu'on le devient? Pardon. Est-ce que tu penses que tu es faite peut-être pour être une femme de militaire ou est-ce que tu as travaillé à le devenir de la bonne façon?
Je pense qu'à la base, là, on a des prédispositions en termes de notre personnalité et tout ça. Pour ma part, j'ai toujours été quelqu'un qui est plus indépendante, très autonome, avec une bonne capacité d'adaptation. Fait que je pense que j'ai des caractéristiques qui ont peut-être fait en sorte que c'est plus facile pour moi, mais je crois, je serais bien mal placée de dire le contraire, mais je crois à 100% que ça se travaille et que ça se développe.
Génial! Ben, merci beaucoup Stéphanie, puis on se reparle dans la vie de tous les jours. Avouez pour celles et ceux qui vivent ce cycle de l'absence dans leur vie de couple que cet échange est un game changer. Non seulement Stéphanie vulgarise super bien le processus, mais elle donne des outils afin de mieux passer au travers des petits bouts moins évidents. Quant à moi, cette ressource, c'est du bonbon. J'ai tellement aimé aborder ce sujet-là avec Stéphanie Villeneuve. Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié, afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!